Bonjour et bienvenue dans Au fil des preuves, notre série sur l'agriculture bio. On démarre aujourd'hui avec une question qui fâche autant les pros que les antibios. Plus 79%, c'est l'écart de quercétine entre une tomate bio et une tomate conventionnelle, mesuré non pas sur une saison, mais sur 10 ans, dans un essai de Californie. 79% de plus. Sur le papier, le bio écrase tout. Alors, aujourd'hui, on pose la vraie question. Est-ce que ça vaut quelque chose, une fois, dans votre assiette?
Et tu vas voir que la réponse est bien plus retorse que le chiffre. Parce que ce 80% est réel, solide, publié, et qu'il n'a presque rien à voir avec le mot bio.
Voilà qui promet. Mais commençons par le commencement. Le bio, on nous le vend comme plus riche en nutriments. C'est vrai ou c'est du marketing?
Un peu des deux.
Et c'est tout l'intérêt. La référence sur les cultures végétales, c'est une énorme méta-analyse publiée en 2014 dans le British Journal of Nutrition par l'équipe de Baranski. 343 études compilées. Pas 3, pas 30, 343.
Et qu'est-ce qu'ils trouvent?
Que les cultures bio ont, en moyenne, 17% d'activité antioxydante en plus. Et pour certains composés précis, c'est beaucoup plus spectaculaire. Les flavonols, plus 50%. Les anthocyanines, plus 51%. Les flavanones, plus 69%.
Alors, stop. Parce que tu m'as lancé trois mots savants. Les flavonols, les anthocyanines, c'est quoi, concrètement?
Ce sont des polyphénols, des molécules que la plante fabrique pour se défendre contre le soleil, les agresseurs, le stress. Les anthocyanines, par exemple, ce sont les pigments rouges et violets du raisin, de la myrtille, du chou rouge. Et ces composés nous intéressent parce que d'autres travaux les associent à un risque réduit de certaines maladies chroniques.
Donc, le bio est bourré de molécules anti-maladies. C'est plié, non?
Doucement. Première nuance, et elle est capitale. Ces polyphénols, ce sont des composés à bénéfice santé potentiel. Ce ne sont pas les nutriments de base, pas les vitamines, pas les minéraux essentiels. Et justement, sur les vitamines et minéraux usuels, la vitamine C, le fer, le zinc, Baranski ne trouve quasiment aucune différence.
Pas de différence sur la vitamine C.
Plus 6%, mais statistiquement non significatif. Autrement dit, à peu près rien. Et tiens-toi bien, les protéines sont même légèrement plus basses en bio, de l'ordre de 15% en moins. Donc, plus riches, oui, mais sur une catégorie précise de molécules, pas sur toute la ligne.
C'est comme une voiture avec plein d'options sympas, mais pas forcément un meilleur moteur.
Exactement ça. Plus d'options de confort, le moteur de base reste le même.
Bon, mais il y a un point où le bio gagne vraiment, non? Tu m'as parlé d'un métal lourd.
Le cadmium, oui, et là c'est un vrai bon point. Baranski trouve une concentration près de 2 fois plus basse dans les cultures bio. Moins 48% en moyenne. Le cadmium, c'est un métal toxique qui s'accumule très lentement dans l'organisme. Surtout dans les reins, sur des décennies.
Et il vient d'où? Dans nos légumes?
En grande partie des engrais phosphatés minéraux. Or, ces engrais-là, le cahier des charges bio les interdit. Donc moins d'apport de cadmium au sol, moins de cadmium dans la plante. Là, le lien de cause à effet est clair. Et c'est un argument concret en faveur du bio.
Et une méta-analyse comme celle de Baranski, elle agrège quoi, au juste? On met tout dans le même panier?
Non, et c'est important. Elle agrège 3 types d'études très différents. D'abord, des comparaisons de fermes bio et conventionnelles voisines. Ensuite, des études de panier, où on achète les produits en magasin et on les analyse. Et enfin, des essais de terrain contrôlés, où les chercheurs cultivent eux-mêmes les 2 systèmes côte à côte. Et environ 70% de tout ça vient d'Europe.
Et les 3 types racontent la même histoire.
Globalement, oui, pour la plupart des paramètres, ce qui renforce la confiance. Mais chaque type a ses biais. L'étude de panier, par exemple, ne contrôle pas la variété ni la fraîcheur. D'où l'intérêt des essais contrôlés, plus propres, mais plus rares.
Tu m'as donné des chiffres qui vont de plus 17 à plus 69%. C'est une sacrée fourchette.
Énorme fourchette. Et c'est révélateur. L'activité antioxydante globale, c'est plus 17%. Mais quand on descend dans le détail des familles de molécules, ça grimpe. plus 50% pour les flavonols, plus 51% pour les anthocyanines, plus 69% pour les flavanones. Donc selon le composé que tu regardes, l'écart va du modeste au spectaculaire.
Et il y a des composés où le bio est carrément moins bon.
Oui, et il faut le dire. La vitamine E, par exemple, ressort plutôt plus basse en bio dans cette analyse, de l'ordre de 15% en moins. Ce n'est pas un tableau tout rose. C'est un profil. Plus de polyphénol, moins de cadmium, mais pas un avantage uniforme sur tout.
Bon, alors revenons à ta bombe du début. 79% de quercétine en plus. D'où ça sort?
Ça, c'est une étude magnifique signée Mitchell, publiée en 2007. Et ce qui la rend précieuse, c'est sa méthode. Les chercheurs de l'Université de Californie à Davis avaient un essai de longue durée, avec des échantillons de tomates archivées, séchées, conservées à l'abri de la lumière, année après année.
Comme une capsule temporelle de tomates.
Une capsule temporelle, c'est exactement ça. Ils ont analysé les années paires, de 1994 à 2004. Toujours la même variété de tomates, le même cultivar, le Halley 3155. Et ils comparent un système bio et un système conventionnel côte à côte.
Et le verdict?
Sur 10 ans, les tomates bio contiennent en moyenne 79% de quercétine en plus et 97% de caenferol en plus. Deux flavonoïdes. Et là, attention, la significativité est énorme. P inférieur à 0,0001.
Donc le bio double presque le taux de certains antioxydants. C'est énorme.
C'est énorme. Et maintenant, la révélation. Ce n'est pas le bio qui fait ça.
Comment ça? Ce n'est pas le bio. C'est écrit bio sur l'étiquette de l'étude.
Écoute bien, parce que c'est le cœur de l'épisode. Les chercheurs ont remarqué quelque chose. La hausse des flavonoïdes, au fil des années, suit une autre courbe, celle de la baisse des apports de fumier dans les parcelles bio. À un moment, ils réduisent le fumier, en gros de 45 à 18 tonnes par hectare.
Et donc, moins de fumier, c'est moins d'azote pour la plante.
Voilà. Moins d'azote disponible. Et quand une plante a moins d'azote, elle réoriente son métabolisme et fabrique davantage de polyphénol. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du stress. La plante un peu privée se défend mieux.
C'est presque comme un système immunitaire qui se renforce face à l'adversité, plutôt que quand tout va bien.
Très juste. Une plante choyée, gavée d'azote, pousse vite et grossit. Mais elle se fatigue moins à fabriquer ses molécules de défense. Une plante un peu à la diète azotée, elle, met le paquet sur la chimie défensive, dont nos fameux antioxydants.
Et ça ne joue pas que sur les flavonoïdes, j'imagine?
Non, on retrouve une logique semblable sur d'autres familles. Baranski voit par exemple les caroténoïdes totaux un peu plus élevés en bio aussi, de l'ordre de plus de 17%. Les pigments orangés, ceux de la carotte. Là encore, c'est cohérent avec une plante qui investit davantage dans sa chimie quand elle n'est pas suralimentée.
C'est presque contre-intuitif. On imagine que bien nourrir la plante donne le meilleur légume.
C'est tout le paradoxe. Pour le rendement, oui, gave-la d'azote. Mais pour la densité en composés défensifs, un peu de privation la rend plus intéressante chimiquement. Le légume parfait sur la balance n'est pas forcément le plus riche en polyphénol.
Donc, ce n'est pas le label bio en soi, c'est la façon de gérer l'azote du sol.
Exactement. Et la preuve, c'est que tu obtiendrais le même effet en conventionnel peu fertilisé. À l'inverse, un bio surfertilisé en azote ferait disparaître le bonus. Les auteurs le disent eux-mêmes. Ce qui compte, c'est la disponibilité de l'azote, pas le logo.
Et ce que j'aime dans cette étude, c'est qu'il y a une dynamique dans le temps. Ce n'est pas juste une photo.
C'est ça qui est beau. L'écart ne tombe pas du ciel d'un coup. Il se creuse progressivement, surtout sur les 4 dernières années de l'essai, à mesure que le sol bio se stabilise et que les apports d'azote diminuent. C'est précisément cette corrélation dans le temps qui rend l'explication crédible. La cause et l'effet bougent ensemble, année après année.
Et les rendements dans tout ça? Si la plante est un peu à la diète d'azote, elle produit moins?
Dans cet essai précis, les rendements ne diffèrent pas significativement entre les deux systèmes. Mais attention, ça, c'est local, sur cette culture-là. On reparlera du rendement à l'échelle globale dans le dernier épisode. Et là, le tableau est différent.
Tu nous fais un teaser.
Disons que je plante une graine. Sans mauvais jeu de mots.
C'est une nuance énorme en fait. On crédite le bio d'un mérite qui revient à l'agronomie.
Et c'est tout sauf un détail. Parce que ça transforme un slogan, le bio c'est mieux, en une vraie connaissance utile. Un sol bien géré, avec un azote maîtrisé, donne des plantes plus riches en polyphénol. Ça, c'est exploitable, en bio comme en conventionnel.
Bon, jouons les avocats du diable. Cette étude Mitchell, elle est béton à quel point?
Bonne question. Et il faut être prudent. C'est une seule variété de tomates, un seul site, avec un petit nombre de parcelles. Donc ça démontre magnifiquement un mécanisme, mais ça ne se généralise pas à toutes les cultures et toutes les régions. C'est une illustration brillante, pas une loi universelle.
Et la grande méta-analyse de Baranski, elle est plus solide de ce point de vue?
Plus large, oui, 343 études. Mais elle a son propre talon d'Achille. Une hétérogénéité énorme entre les études. L'indice qui mesure ça dépasse 75% pour la plupart des paramètres. En clair, les résultats varient énormément d'une culture à l'autre, d'une région à l'autre. La moyenne globale cache une forêt de cas particuliers.
Donc, plus 17% d'antioxydants, c'est une moyenne qui peut masquer des plus et des moins selon le légume.
Tout à fait. Et puis, il y a la limite qui vaut pour les deux études et que je veux marteler. Ce sont des études de composition. On mesure ce qu'il y a dans l'aliment. À aucun moment, on ne mesure ce qui se passe dans le corps de celui qui le mange.
C'est-à-dire qu'avoir plus d'antioxydants dans la tomate ne prouve pas qu'on sera en meilleure santé.
Voilà le grand écart du dossier. Entre « il y a plus d'antioxydants dans l'assiette » et « je vis en meilleure santé », il y a un gouffre que ces études ne franchissent pas. Le lien antioxydant-santé vient d'autres travaux, épidémiologiques, et il reste indirect.
Et c'est là qu'on tombe sur un truc déroutant, non? Parce qu'il y a une autre étude, très célèbre, de Stanford, qui dit en gros l'inverse. Aucune preuve que le bio soit plus sain.
Le fameux paradoxe. Et c'est un faux paradoxe, parce que les deux études ne posent pas la même question. Baranski demande « la composition diffère-t-elle ?» Et il répond « oui, il y a plus de polyphénol ». Stanford demande « y a-t-il un bénéfice de santé démontré chez le mangeur ?» Et il répond « pas de preuve solide ».
Donc, les deux peuvent avoir raison en même temps.
Exactement. La composition change, c'est mesuré. Le bénéfice santé, lui, n'est pas démontré. Les deux constats coexistent sans se contredire. Et d'ailleurs, sur un point, ils sont parfaitement d'accord. Il y a moins de résidus de pesticides en bio. Mais ça, ce sera tout un épisode à part.
Bon, pour quelqu'un qui nous écoute, panier à la main, ça donne quoi comme conseil concret?
Premièrement, ne payez pas un surcoût bio en croyant acheter une bombe de vitamines. Ce n'est pas là que ça se joue. Deuxièmement, ce qui pèse le plus dans votre assiette, c'est la quantité et la diversité de fruits et légumes que vous mangez. Bien plus que leur mode de culture. 5 portions de légumes conventionnels battent à plate couture une portion de légumes bio.
Donc mangez des légumes, point.
Mangez des légumes, vraiment. Le mode de culture, c'est la cerise sur le gâteau, pas le gâteau. Et si vous tenez au bio, faites-le pour de bonnes raisons. On y viendra. Les pesticides, l'environnement, le sol.
Donc, si je résume, le bio-végétal a bien plus de certains polyphénols et moins de cadmium. Ça, c'est mesuré. Ce n'est pas du marketing.
Oui, mais les vitamines et minéraux de base, c'est kiff-kiff. Les protéines, légèrement en dessous. Le mérite des antioxydants revient surtout à la gestion de l'azote, pas au label. Et le bénéfice santé concret, lui, n'est pas démontré par ces travaux.
Donc, la vraie leçon, ce n'est pas acheter bio les yeux fermés.
Non. La vraie leçon, c'est que ce n'est pas le logo qui nourrit la plante. C'est la manière dont on gère son sol. La meilleure tomate n'est pas la bio dans l'absolu. C'est celle qu'on a fait pousser dans un sol vivant, bien équilibré, avec le bon niveau d'azote.
Une belle façon de dégonfler un chiffre choc sans le balayer. Pris 79% de quercétine, c'est vrai. Mais ça raconte une histoire d'agronomie, pas de marketing.
Et c'est bien plus intéressant comme ça.
Dans le prochain épisode, on quitte le potager pour l'étable. Le lait, la viande et le fameux plus d'oméga-3 du bio, qui là encore, cache une sacrée surprise. À très vite, et d'ici là, regardez moins l'étiquette et plus la façon dont c'est cultivé.